Voici les titres du journal.
Invective, accusation de manipulation, menace d'expulser des gens de la salle. Hier soir, l'assemblée primaire de Port-Valais s'est révélée houleuse. Yves Terrani y était, récit dans un instant. Nouvelle étape importante pour le parc naturel de la région de la vallée du Trien. Hier soir, à Saint-Maurice, l'assemblée constitutive de l'association s'est tenue. Valérie Blum s'y trouvait et expliquera dans quelques instants l'important travail qu'il reste à faire. Cela fait maintenant 15 ans que la transparence s'est installée dans l'administration fédérale. Les deux chambres ont accepté ce matin que la requête de documents ne soit plus facturée. Et puis en hockey sur glace, Lausanne est la seule équipe romande de National League à avoir connu les joies de la victoire hier soir. Et en ski alpin, Gaël Soulauf a lancé sa saison de Coupe d'Europe avec deux top 30 à Zinal.
Le temps va devenir très nuageux cet après-midi, le tout accompagné de précipitations. Et pour demain, le temps sera le plus souvent très nuageux avec de fréquentes averses. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Quentin Fray. Bonjour Quentin.
Bonjour. Ce devait être une assemblée primaire normale à Port-Valais hier soir, mais au final c'était tout autre chose. Si le budget 2022 de la commune est passé comme une lettre à la poste, 78 oui, 1 non, 14 abstentions, il en est allé différemment pour un autre point figurant à l'ordre du jour, Yves Terrani.
Oui, et ce point c'était le numéro 5, il était intitulé « Modification du règlement communal des constructions et des zones, du plan d'aménagement détaillé, du plan d'affectation des zones de la décharge du Châtelet au Bouvray ». Réunis en la salle Torredounoum des Évouettes, l'assemblée primaire devait initialement voter hier soir sur cet objet, mais l'exécutif de Port-Valais avait décidé dans la journée de sursoir au scrutin et de proposer uniquement une présentation du projet par les responsables de la SATOM, propriétaire de la décharge. Alors, l'assemblée primaire a découvert la chose en pleine séance et le moins que l'on puisse dire, c'est que la suite s'est plutôt mal passée.
Et précisément, Yves, pourquoi alors ce revirement du conseil municipal ?
Eh bien, je vous propose d'écouter les explications du président de la commune, Pierre Zoppeletto. Elles sont en lien avec la pandémie.
On m'a décidé ça aujourd'hui parce que justement, on avait pas mal de personnes qui sont excusées. D'habitude, ils sont des piliers des assemblées primaires et on ne peut pas venir parce qu'on a peur du Covid, on ne veut pas venir, etc. On a ma conscience, on a dit, c'est un projet important, il faut que la collectivité puisse voter, donc on va, comme on l'a déjà eu fait pour d'autres sujets, on dit, on va profiter des votations fédérales qui sont toutes proches le 13 février pour faire une votation communale sur ce sujet.
Alors à ce stade, il faut tout de même préciser que Pierre Zoppeletto s'est montré peu convaincant avec cette explication liée au Covid. Ainsi, interrogé sur le nombre de personnes excusées, il n'a pas su répondre. Des gens le questionnaient, il était un peu brouillon, a dû avoir recours au secrétaire communal pour établir ce qu'autorise ou pas la loi en pareille situation.
Et donc on imagine, Yves, que les esprits ont fini par s'échauffer de part et d'autre.
Ouais, le ton est monté, les infectives ont fusé, le président a menacé certains de les expulser des lieux, plusieurs personnes ont quitté finalement la salle, hurlant dans les couloirs. Mais Daniel Hauser, lui, est resté, voisin de la décharge. Il s'oppose au projet, mais l'a dit à l'Assemblée sur un ton posé. Nous l'avons retrouvé à la sortie. Il parle tout de même de manipulation de la part des autorités communales.
Alors clairement, avec le tour de force qu'ils ont fait ce soir de pouvoir reporter ceci, je trouve que la commune n'a pas joué franc jeu, quoi. On était censé venir voter pour un plan d'affectation de zone. Nous, on s'était organisé. On avait envie de pouvoir avancer dans ce projet aussi, pour pouvoir dormir ce soir, pour pouvoir savoir où est-ce que va la commune, où est-ce que nous, on va aussi pouvoir aller avec cette décharge, ces travaux, ces nuisances qui sont prévues pendant la 15 d'années d'exploitation.
Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?
Ben, on va continuer à travailler, discuter entre nous, on va s'organiser, on va partager avec les gens, on va aller à la rencontre des gens pour leur parler de nos appréhensions, nos inquiétudes. On va rester en dialogue avec la SATOM qui est ouverte quand même. Et puis, on va croiser les doigts pour que ça se passe pas, pour notre tranquillité, pour notre bien-être, pour notre santé. Et aussi pour la qualité de vie dans le village du Bouvray, comme ça a été soulevé aussi clairement ce soir.
Alors on va préciser ici, ou rappeler plutôt, que la décharge du Châtelet au Bouvray est destinée au stockage des mâches-fer, comprenez les résidus de la valorisation thermique des ordures ménagères en provenance de la SATOM et peut-être d'autres usines de traitement des ordures de Suisse.
Et s'il y a quelqu'un, Yves, qui hier soir s'est trouvé mal à l'aise, on peut dire que c'est bien le directeur de la SATOM.
Oui, absolument. Et Daniel Baillifard, invité avec sa porte-parole et un géomètre spécialisé à présenter le projet, nous lui avons demandé si de son point de vue, il y avait eu profonde erreur de communication de la part de la municipalité de Port-Valais.
Je vois qu'il y a surtout beaucoup d'émotions dans ce dossier, déjà avant qu'on puisse présenter le projet. Alors effectivement, il faut essayer de voir et comprendre les préoccupations des riverains qui sont directement concernés. Et c'est clair que SATOM va prendre toutes les mesures, comme je l'ai dit, qui sont techniquement possibles pour réduire au mieux ces nuisances. Après, c'est clair qu'on voudrait toujours ce genre de nuisances chez l'autre, chez le voisin, dans un autre canton. Nous, aujourd'hui, on va avec nos scories à une ville dans la région zurichoise, mais bientôt, on pourra plus y aller. Donc effectivement, on cherche des solutions régionales. Voilà, il faut voir aussi l'intérêt supérieur, l'entraide de solidarité, le collectif, et puis ce genre de projet qu'on ne peut éviter, puisqu'effectivement, on a tous des déchets, on produit tous des déchets. Et ces mâches-fer, on ne peut pas les mettre ailleurs que dans des décharges. Donc on doit trouver des solutions. Alors maintenant, je repars avec la conviction qu'on doit beaucoup mieux présenter, communiquer, rassurer. Aujourd'hui, on parlait du plan d'affectation de la zone. Je pense qu'il faudra déjà parler du projet en lui-même. Ce n'était pas l'objet ce soir, mais surtout démontrer que la mise en œuvre du projet permettra d'éviter les nuisances que certains riverains imaginent avoir.
Des invectives, des gens qui quittent la salle, ça vous a surpris ?
Alors oui, un peu quand même, parce que il faut quand même, je pense, un peu de respect par rapport à l'autorité. Et là, j'étais quand même surpris, oui.
Et pour la suite maintenant, Yves ?
Eh bien, à en croire le président Pierre Zoppeletto, une nouvelle séance de présentation du projet à la population aura lieu en janvier, avant le vote sur l'objet le 13 février. Pierre Zoppeletto, quant à lui, il a très mal digéré.
Ces gens, ils ont tout confondu. Absolument tout confondu. Là, c'était un changement d'affectation d'un plan de zone. Un petit peu moins de terrain du côté Bouvray, un peu plus du côté des Éouettes. La forme change un petit peu, mais c'était uniquement ça. Aujourd'hui, les cadastres déchargent, qu'on le veuille ou non. Mais non, pour continuer, la SATOM pourrait très bien emménager son fonds, redemander un permis d'exploitation, puis il n'y a pas de souci, ils peuvent y aller. Ils sont aux normes. Le changement, c'est vraiment parce qu'il y a eu ce changement de parcelle avec le canton pour le futur tunnel de contournement du Bouvray. Et puis, c'est ça. Et les gens confondent ce plan de zone avec les travaux.
Affaire à suivre. Donc, vous dire tout de même qu'un citoyen posé, lui aussi, a pris la défense du collège municipal, laissant entendre qu'il n'aimerait pas être à sa place. Ce monsieur a remercié les élus au passage. Élus qui se sont fait encore vertement tenser par un autre citoyen, mais là, on ne va pas entrer dans les détails, à propos de la plage publique de Rivebleu-au-Bouvray. Bref, une toute mauvaise soirée pour l'exécutif de Port-Valais.
Mais en tout cas, merci beaucoup Yves pour ce récit. Et puis, deux mots tout de même du budget 2022 de Port-Valais. Il prévoit un déficit de quelques 729 000 francs pour un total de charges de 22,1 millions. La marge d'autofinancement s'établit à 650 000 francs et les investissements devraient atteindre 1,37 million.
Dans quelques années, le Valais romand pourrait compter son premier parc naturel régional.
Le canton en dénombre déjà deux, celui de Pfinfinge et celui de la vallée de Bine. Depuis 2018, 7 communes de la région rêvent d'en créer un autre dans la vallée du Trien. Et hier soir, elles ont franchi une étape supplémentaire avec l'assemblée constitutive de l'association. Valérie Blom s'y trouvait.
Effectivement, les délégués des communes de Trien, Saint-Maurice, Salvan, Martigny-Combes, Vernaya, Viona et Finhaut ont accepté à l'unanimité les statuts de l'association et ils ont élu le comité de pilotage, un pas symbolique après déjà 3 ans de travail, mais travail qui est loin d'être terminé. Écoutez à ce propos le coprésident Emmanuel Reva.
Jusqu'à maintenant, on a réfléchi à toute une série de projets qu'on pouvait mettre en œuvre durant cette phase de création, un peu en guise de, on va dire, de galop d'essai, de projets pilotes, exemple qu'on peut mettre en œuvre dans les différents domaines du parc naturel régional. On a une cinquantaine d'idées de projets en fait maintenant qui sont sur le papier et puis on doit les réaliser et les implémenter dans le concret.
Et c'est des projets qui vont mettre en valeur vraiment un peu la particularité de l'endroit, de la nature, à préserver, ce genre de choses. Enfin, j'ai vu qu'il y a des commissions même éducation, donc même d'aller sensibiliser les écoles.
Oui, exactement. En fait, on a plusieurs axes. Un des axes concerne effectivement la valorisation de tout le patrimoine naturel et paysager du territoire. Un des axes concerne aussi la sensibilisation du public ou des visiteurs à ces richesses du patrimoine, qui aussi concerne aussi le patrimoine culturel bâti, pas uniquement les valeurs naturelles. Et puis on a un axe très important qui se déroule autour du thème de l'économie durable, avec des thématiques comme la mobilité, comme le tourisme, comme l'énergie. Et là aussi, dans chacune de ces boîtes, on a des projets dans le pipeline.
Un travail qui devrait être mené à bien d'ici 2025 afin de pouvoir demander la labellisation parc à la Confédération et qui ne se fait qu'une fois tous les 10 ans. Mais avant, il faudra que la population se prononce sur le projet. Et pour éviter qu'il soit enterré comme celui du Val d'Airain en 2015, il va falloir communiquer avec la population, l'écouter, la convaincre, comme l'explique l'autre coprésident du comité, Florian Piazenta.
C'est un grand défi pour pour nous, à nous effectivement maintenant, de, lorsqu'on va créer ces projets, de bien les valoriser. Mais là, c'est pour ça qu'on fait confiance maintenant à Vallée du Trien Tourisme et au parc naturel qui se mettra en place pour vraiment faire la promotion de ces projets, pour valoriser ce qui est fait chez nous, puisque c'est important d'avoir l'appui des gens de l'interne, mais également le valoriser à l'extérieur pour faire venir des touristes chez nous.
Et finalement, on peut se poser la question, pourquoi un parc dans la région de la Vallée du Trien et pas ailleurs? La réponse d'Emmanuel Reva.
En fait, on fait une étude de faisabilité. Et c'est vrai que pour créer un parc naturel régional, il y a certaines conditions à remplir qui sont liées alors à la qualité du paysage, qui peut évidemment être très belle hors du parc naturel régional de la Vallée du Trien. Mais une des caractéristiques en fait de cette région, c'est que finalement elle a été un petit peu à l'écart des grands développements d'infrastructures du XXe siècle. Elle a gardé un caractère un peu authentique et assez préservé, qu'on ne retrouve pas partout. On a aussi des valeurs même en plaine avec le bois noir à Saint-Maurice qui constitue des choses assez uniques en fait pour la plaine du Rhône, à l'échelle de la plaine du Rhône. Et c'est toutes ces valeurs réunies qui font qu'on peut justifier un parc naturel régional dans cette région.
Et tout un chacun peut intégrer l'une ou l'autre des commissions s'il est intéressé par la question du parc régional naturel. Toutes les informations sur le projet de parc de 222 km² se trouvent sur valleedutrien.ch.
La Castalis offre une cure de jouvence.
Les travaux devraient durer jusqu'en 2025 au moins. L'établissement socio-éducatif Montaisan se dotera d'outils et de bâtiments modernes plus adaptés aux normes actuelles et à sa population intergénérationnelle. Le complexe, qui fêtera ses 50 ans l'année prochaine, a subit très peu de changements depuis son ouverture en 1972. Pour le Conseil d'État valaisan en charge de la santé, Mathias Reynard, ces travaux devenaient nécessaires.
C'est une institution qui a besoin maintenant de locaux un peu plus modernes, qui a besoin de locaux qui soient rénovés. Voilà, c'est vraiment un besoin aujourd'hui. Et donc cette construction, elle est nécessaire. Et puis elle va permettre d'avoir un cadre de vie qui soit meilleur pour les bénéficiaires, meilleur aussi pour les familles qui viennent ici avec les bénéficiaires. Donc voilà, c'est que du positif. Et puis évidemment, encore une fois, en deux jours, une bonne nouvelle pour le Chablais, une bonne nouvelle pour la région de Montée. C'est important. On a souvent entendu que le Chablais et que la région de Montée n'étaient pas suffisamment entendus, soutenus, qu'il n'y avait pas suffisamment d'investissement. Là, on montre en quelques jours que c'est une priorité pour bien des services de l'État.
Et Mathias Reynard qui faisait référence à la rénovation des serres et des jardins de Malévaux. La qualité de vie des pensionnaires sera préservée durant les travaux. Ils pourront en tout temps suivre leur avancée grâce à des fenêtres installées sur les palissades de sécurité par les ouvriers. Le nouveau complexe devrait être opérationnel à l'automne 2025. Le coût total des travaux est devisé à 77 millions de francs. C'était un sujet réalisé par Guillaume Abbé.
Le canton de Vaud a dépoussiéré sa loi sur la protection du patrimoine bâti.
Le Grand Conseil vaudois a mis la réforme sous toit lors de sa séance d'hier. L'objectif du texte, mieux encadrer la protection, renforcer le recensement et l'inscription à l'inventaire cantonal, mais aussi le fonds des monuments historiques. Une révision indispensable pour Pascal Broulis, conseiller d'État chargé des finances.
L'actuelle loi avait plus de 60 ans, donc elle était d'une autre époque, si on veut, où le canton comptait presque 350 000 personnes en moins qu'aujourd'hui. Donc un canton qui s'est urbanisé, qui s'est ouvert sur le monde, qui a besoin aussi de densification pour éviter le gaspillage, des lois qui se sont aussi entrechoquées. Hein. À l'époque, on construisait des villas un peu ça me suffit, qui prenaient beaucoup de territoire. Aujourd'hui, on densifie beaucoup plus. La villa, elle reste d'actualité, mais plus de la même façon. Donc une révision en profondeur sur la notion de patrimoine, un renforcement financier, donc c'était ce qui était voulu aussi par le Parlement et le Conseil d'État. Et puis on voit que ça a fonctionné aujourd'hui, donc un projet de loi sous toit.
Et parmi les pierres d'achoppement des débats du plénum, la conciliation entre protection du patrimoine et amélioration du potentiel énergétique des bâtiments, on retrouve Pascal Broulis.
Et au final, personne n'a gagné. On doit en tenir compte. On doit tenir compte, quand on fait une rénovation, d'être intelligent, si on doit changer les fenêtres. Hein. On peut garder des fenêtres avec des cadres historiques en chêne, mais en même temps, on peut mettre du double, triple vitrage, quadruple vitrage, ça se fait aussi aujourd'hui. Donc voilà, personne ne l'a emporté l'un sur l'autre, mais c'était ça qui était peut-être le plus mis en avant dans une période où on dit qu'il faut économiser l'énergie pour la planète.
C'était des propos recueillis par Isabelle Bertolini. L'actuelle loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites date de 1969.
Pendant une semaine, le centre de congrès se transforme en manoir de l'humour.
Oui, le Montreux Comedy Festival ouvre en effet ses portes ce soir. Une 32e édition qui verra passer une cinquantaine d'humoristes de toute la francophonie jusqu'au 7 décembre. Mais l'arrivée du variant Omicron et l'ombre de nouvelles restrictions sanitaires planent sur les manifestations de ce type. Et cela inquiète un peu le patron du Montreux Comedy, Grégoire Führer.
J'aborde avec une certaine appréhension, c'est normal, on est attentif. On espère que les mesures restrictives, en tout cas plus restrictives, ne vont pas tomber d'ici la fin du festival. Maintenant, nous, on respecte absolument les plans sanitaires. Il n'y aura personne qui pourra circuler dans le DMDC, que ce soit du staff, du public ou des artistes qui ne seront pas avec un pass sanitaire. On a fait tout ce qu'on nous a demandé. On espère que ça tiendra. Voilà, on fera ce qu'il faut le cas échéant, mais en tout cas, voilà, c'est sûr qu'on n'aborde pas cette semaine avec beaucoup de sérénité.
Et du côté des artistes qui viennent de France, un peu de Belgique, aussi d'Afrique du Nord, d'Afrique francophone, est-ce que ça vous inquiète? C'est quoi le pire scénario pour vous?
Disons que les artistes voilà, sont conscients de la situation. On a quelques soucis avec des artistes belges, où on a quelques vols qui devaient venir d'Afrique via le Maroc qui sont annulés. Donc voilà, on doit s'adapter. Mais pour l'instant, il n'y a aucune annulation majeure. Il n'y a pas une seule grosse tête d'affiche qui se trouve dans une situation compliquée. La majeure partie des artistes sont à Paris. Donc c'est vraiment la plus grosse crainte, ce serait une fermeture des frontières entre la Suisse et la France. Donc là, ce serait compliqué, effectivement. Mais on espère en tout cas que ça va tenir ces 10 prochains jours.
Et voilà, et plus d'informations sur le site internet www.montrecomedie.com. Face à la flambée de nouvelles infections et d'admissions à l'hôpital et face à l'apparition du nouveau variant Omicron, le Conseil fédéral veut reprendre la main pour lutter contre la pandémie. Il a mis en consultation jusqu'à ce soir un paquet de 5 mesures. L'exigence du certificat Covid sera étendue dans les espaces intérieurs, y compris en privé, au-delà de 10 personnes. La durée de validité des tests sera réduite. Le port du masque est généralisé à l'intérieur. Les tests répétitifs à l'école seront obligatoires et des mesures seront prises au travail. Le Conseil fédéral refera une analyse vendredi de l'appréciation faite des mesures qu'il a mises en consultation. Elles devraient rapidement entrer en vigueur jusqu'au 24 janvier au moins. Et puis on note qu'un troisième cas d'infection variant Omicron est confirmé en Suisse. La personne est isolée et ses contacts sont en quarantaine selon un tweet de l'Office fédéral de la santé publique. Les deux premiers cas ont été annoncés hier soir et placés en isolement.
La transparence dans l'administration fédérale fête ses 15 ans.
Mais demander de consulter un document officiel peut être assorti d'un émolument susceptible d'être dissuasif, même si dans la pratique, 97% des requêtes sont gratuites. Et après un long processus entre les chambres, le Conseil des États a ratifié ce matin le principe de gratuité, tout comme le national. Une petite révolution dans un Conseil des États qui n'aime pas beaucoup la transparence. C'est une victoire pour la sénatrice verte genevoise Lisa Mazon, qui est parvenue à convertir des élus PLR et UDC.
Ça correspond à la pratique et il y a quelques cas isolés qui sont extrêmement problématiques où on demande des émoluments disproportionnés par rapport à la charge de travail et ces cas-là, c'est l'arbitraire, on doit y mettre fin. C'est un pas très clair vers une administration qui soit ouverte, qui soit à disposition des citoyennes et des citoyens. Parce que, justement, ce principe de gratuité est posé, on a le droit d'accéder à ces documents officiels. C'est un signal important pour le Conseil des États. Le Conseil des États, dans ce genre de questions, a tendance à dire soit alors on ne change rien, surtout aucune amélioration, ou alors encore on durcit les conditions. C'est une victoire de la transparence et c'est une victoire d'une vision moderne de l'administration et de la façon de gérer l'État.
C'était des propos recueillis par Serge Jubin. Les sénateurs romands ont été très partagés. Ceux de gauche ont soutenu la gratuité, tout comme la PLR Johanna Gapani. La chablaisienne Marianne Moiret s'est abstenue, mais les autres élus du PLR et du centre s'y sont opposés. Et la Suisse ne doublera pas sa contribution à la cohésion de l'Union européenne. Le Conseil national a refusé ce matin une proposition visant à donner un signal positif à Bruxelles après la rupture des négociations sur un accord cadre. Puis un mot de l'étranger, l'interview dans le journal de TF1 du candidat de la présidentielle Éric Zemmour a été suivie hier soir par 7,2 millions de téléspectateurs et a ainsi capté 30,9% des parts d'audience. Le pic de spectateurs a été enregistré justement lors de cette interview du polémiste d'extrême droite Éric Zemmour, lequel avait officialisé sa candidature à la présidentielle quelques heures plus tôt dans une vidéo diffusée sur YouTube qui cumule déjà plus de 2 millions de vues. En voile, Alinghi va faire son retour dans la Coupe de l'América. D'après le New Zealand Herald, le syndicat suisse a payé la taxe d'inscription pour participer à la 37e édition prévue en 2024. Après 11 ans d'absence, la société helvétique s'est pour sa part refusée à tout commentaire, mais sa responsable de la communication a précisé à l'agence Keystone ATS qu'elle reviendra vers les médias ces prochains jours. Durant son histoire, Alinghi, propriété d'Ernesto Bertarelli, a remporté la prestigieuse compétition en 2003 et en 2007 avant de connaître la défaite 3 ans plus tard.
En hockey sur glace, Lausanne est enfin parvenue à enchaîner 2 victoires en championnat.
3 jours après son succès contre le CP Berne, la formation vaudoise a pu confirmer hier soir à domicile. Les joueurs du LHC se sont imposés 2-0 face au HC Ajoie, lanterne rouge de National League. Pour la première fois depuis le mois d'octobre, ils ont ainsi pu gagner 2 matchs d'affilée. De quoi lancer cette semaine de la meilleure des façons, même s'il faudra confirmer dès vendredi à domicile contre Davos. L'attaquant lausannois Guillaume Maillard revient sur le programme qui attend son équipe ce week-end.
C'est toujours, on part avec un avantage et puis surtout c'est Davos, c'est une longue route, ils vont faire une longue route, voilà, c'est l'occasion parfaite pour faire une semaine avec beaucoup de points, surtout qu'on joue encore à Ajoie, mais sans les sous-estimer, mais entre guillemets c'est l'occasion parfaite pour faire une belle semaine. Davos, ils sont toujours, même s'ils ont perdu ce soir, ils sont quand même dans les 3-4 premiers, ils ont une très belle saison, donc ça va être un match super dur, il faudra jouer à fond, il faudra faire notre meilleur match, bien meilleur que ce soir si on veut gagner. En parlant de Dancy, ben, je pense qu'on a l'équipe parfaite pour dire qu'on est une Dancy, même des fois sans dents. Donc voilà.
Voilà, c'était des propos recueillis dans l'ambiance par nos confrères de LFM. Et à noter que Lausanne est la seule équipe romande de National League à avoir gagné hier soir. Genève Servette a perdu 3-0 à Lugano, alors que Fribourg-Gotteron s'est incliné 5-4 au tir au but à Zurich.
En ski alpin, les choses sérieuses ont repris pour Gaël Zulaouf.
Le skieur de Châteaudet a retrouvé la compétition en début de semaine à Zinal. Pour ce retour aux affaires, le Damounais s'était engagé en Coupe d'Europe sur les 2 Super G qui étaient au programme. Son premier passage lui a permis lundi de se classer au 29e rang. Hier, l'athlète du Pays d'en Haut a pu gagner 2 places lors de la seconde épreuve en terminant 27e. La saison est donc officiellement lancée pour le Vaudois, mais elle ne fait que commencer. Après avoir décroché ses 2 premiers top 30 de l'hiver, Gaël Zulaouf a déjà le regard porté vers les prochaines échéances et le programme est chargé pour le Damounais qui privilégie les épreuves de vitesse en ce début de saison.
Alors c'est vrai que là le calendrier est pas mal chargé, là il y a cette fin de semaine encore 2 géants Coupe d'Europe que j'ai décidé de ne pas faire au vu de ma forme actuelle en géant et j'ai préféré me concentrer sur la vitesse. La semaine prochaine on repart normalement en début de semaine, s'entraîner 1 ou 2 jours dans les Grisons et puis après on part directement à Santa Caterina pour la suite du calendrier Coupe d'Europe.
Ce choix des disciplines actuellement, à votre niveau, comment il se fait? Est-ce qu'il y a une prédisposition à prendre part à plus des super G, plus des descentes? Vous avez déjà fait votre choix?
Non, alors le choix c'est vraiment au vu de la forme. C'est vrai que le géant j'aimerais toujours en faire, mais c'est vrai que si la forme n'est pas là, il y a aussi beaucoup de niveaux, donc c'est vrai que faut voir un peu au jour le jour. Mais c'est vrai qu'actuellement en vitesse je me sens pas trop mal. Et en géant, il manque encore quelques jours d'entraînement. C'est vrai qu'on a eu des bonnes conditions pour s'entraîner en vitesse cet été sur les glaciers. Un peu moins en géant, il y a quand même eu un petit peu des précipitations au mois d'octobre-novembre. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours eu des bonnes conditions pour s'entraîner en géant. Mais c'est comme ça.
Sur le front de la Coupe d'Europe, Gaël Zulaouf a donc officiellement lancé sa saison avant de voyager vers Santa Catarina pour les prochaines épreuves de vitesse. Le skieur de Châteaudet prendra la direction des Grisons cette semaine pour un camp d'entraînement. Un sujet signé Ludovic Turin.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. Radio Chablais. La météo.
Le temps deviendra très nuageux cet après-midi avec l'arrivée de précipitations par le nord-ouest. La limite pluie-neige se situera vers 1300 mètres au début, puis elle va s'abaisser progressivement jusque vers 900 mètres d'ici la soirée. On attend de 20 à 40 cm de neige au-dessus de 1200 mètres jusqu'à jeudi soir. Il va faire jusqu'à 6 degrés aujourd'hui en pleine, 4 à 1000 mètres et 0 à 2000 mètres. Et pour demain, le temps sera le plus souvent très nuageux avec de fréquentes averses, surtout en montagne. La limite pluie-neige s'abaissera de 700 mètres à la plaine avec les dernières averses en fin de journée. Il va faire au maximum demain 5 degrés en pleine, de moins 5 à 1 à 1000 mètres et de moins 9 à moins 3 à 2000.